France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Club Science Publique. Vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment fonctionnent les illusions produites par notre cerveau? En général, nous considérons que notre perception du monde qui nous entoure reflète une objectivité, une réalité objective. Ainsi, les médias, tout comme la justice, font appel à des témoins oculaires considérés comme des observateurs, en mesure de rendre compte d'un événement. Ces déclarations peuvent jouer un rôle important pour établir ce qui s'est réellement passé. Ainsi, comme à Paris le 13 novembre 2015, les témoins des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles sont largement sollicités. Nous considérons alors notre cerveau comme un enregistreur de la réalité, qui fonctionne un peu comme une caméra de surveillance. Pour cela, notre cerveau s'appuie sur deux fonctions, la perception par nos sens et la mémoire de ces perceptions. Le dictionnaire définit d'ailleurs la mémoire comme l'activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. En 1999, deux chercheurs américains en psychologie, Christopher Chabris et Daniel Simmons, ont réalisé une expérience devenue célèbre. Ils ont demandé à des témoins de compter les passes que se faisaient sur une vidéo deux équipes de basket. Il fallait dénombrer les passes reçues par l'une des deux équipes. Pendant la partie, un personnage déguisé en gorille traversait la scène en dansant le fameux moonwalk. Résultat, la moitié des témoins n'ont pas remarqué le gorille, ils étaient trop absorbés par le comptage des passes. Nous pouvons donc regarder sans voir, pour peu que notre attention soit focalisée. Notre cerveau semble donc loin de fonctionner comme une caméra ou comme une mémoire informatique, mais alors comment fonctionne-t-il vraiment et pourquoi est-il vulnérable à des illusions ou à des absences? C'est le sujet du débat du Club Science Publique d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Éric Bonvin. Éric Bonvin est anthropologue, médecin psychiatre et psychothérapeute, praticien, formateur en hypnose médicale et thérapeutique. Il est professeur à la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne en psychiatrie et il est également directeur général de l'hôpital du Valais en Suisse, un réseau de 10 établissements hospitaliers assurés par plus de 5200 collaborateurs. Nous sommes également avec deux membres du Club Science Publique, Bruno Falissard, psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud, directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires en bas de la page internet de Science Publique sur franceculture.fr. Éric Bonvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de la radio suisse romande à Lausanne. Votre expérience de clinicien vous a conduit à remettre en cause assez profondément la définition de la mémoire que j'ai citée en introduction. Pour vous, notre cerveau est loin d'être un système d'enregistrement fidèle de ce que nous vivons. Alors comment définissez-vous son fonctionnement, peut-être à la fois du point de vue de la perception du monde qui nous entoure et de la mise en mémoire de cette perception ?
Eh bien oui, tout d'abord un organe, la perception est probablement un organe, mais un organe de relation et de relation avec l'environnement, avec le contexte. Et je crois que c'est cet élément qui est très important. C'est probablement ce qui permet au vivant d'être en lien avec son contexte en permanence, c'est-à-dire aussi de s'adapter rapidement à son environnement, en vue de la survie probablement quelque part, mais aussi en vue d'une adaptation permanente. Donc moi je le situerais à ce niveau-là. Et la question de la mémoire là-dedans, alors vous avez fait une introduction qui donne assez l'image ou la représentation la plus courante que l'on ait aujourd'hui de la mémoire, qui est celle d'une sorte de machine à enregistrer des données. Et c'est vrai que si on compare la mémoire à une machine, qu'elle soit un ordinateur ou un enregistreur, il manque une chose extrêmement importante dans cette définition, c'est la capacité à oublier, qui est tout aussi importante pour la mémoire que la capacité à emmagasiner. Et je pense que cette dimension-là est importante puisqu'on est toujours dans une... Pour pouvoir en fait s'adapter, il s'agit de trouver une certaine fluidité et celle-là va se trouver par une dynamique, un mouvement que l'on trouve entre la perception, le fait d'emmagasiner les informations, mais aussi de les oublier pour les sélectionner et ne garder que ce qui est le plus important pour rester à sa place au mieux dans l'environnement dans lequel on se trouve.
En fait, on lutte plutôt assez en permanence contre cette capacité à oublier. On est plutôt en recherche de se souvenir toujours de choses précises dont on a besoin en mobilisant notre mémoire.
Oui, alors c'est juste bon parce qu'il y a plusieurs fonctions probablement à la mémoire. Là, vous évoquez la mémoire de travail qui est celle qui permet de se souvenir d'une liste de numéros de téléphone ou d'une liste d'achat, une chose comme ça. Et là, effectivement, on cherche à conserver cela au mieux. Mais maintenant, c'est vrai que nous vivons dans notre culture une autre dimension qui est probablement très forte. C'est peut-être en cela qu'il y a une illusion déjà, cette idée que l'on pourrait conserver des instants de la vie. Il y a ce formidable déploiement, par exemple, des images, des enregistrements, de ces instants de vie que l'on cherche à saisir en permanence. Je suis toujours frappé, par exemple, lorsqu'on voyage un peu aujourd'hui, on voit que les personnes passent parfois plus de temps à essayer d'enregistrer ce qu'ils voient avec leur iPhone et autres matériels, plutôt que de vivre l'instant qu'ils ont dans l'endroit où ils sont. Et c'est vrai qu'il y a une propension dans notre culture à vouloir stocker, emmagasiner ces dimensions. Même, par exemple, au Japon, on connaît ce phénomène, on l'a évoqué beaucoup, sur ce syndrome que vivent des gens qui sont trop accrochés aux informations d'Internet, qui engagent, on parle d'infobésité, où ils emmagasinent tellement d'informations qu'ils en finissent par ne plus pouvoir penser. Ils sont encombrés par le nombre d'informations qui les inondent. Donc on a cette dimension particulière, c'est cette avidité pour l'information, pour le stockage de l'information. Alors ça marche bien avec les ordinateurs, parce que les ordinateurs, on peut agrandir la capacité de mémoire de façon quasi exponentielle aujourd'hui, mais par contre pour l'être humain, il est encombré s'il a trop de choses dans son esprit et sa capacité à s'adapter évidemment va s'en ressentir aussi.
Vous allez jusqu'à dire que l'objectif du souvenir n'est pas de restituer le réel. Alors, quel serait l'objectif? C'est-à-dire, en gros, pourquoi avons-nous développé des capacités de mémoire si ce n'est pour accéder à des souvenirs passés?
Alors, je pense que, il n'y en a pas de définition qui soit ou de réponse affirmative, mais il y a quand même plusieurs pistes. D'abord, c'était déjà saint Augustin qui parlait de la temporalité et qui disait que le présent du passé, la mémoire, le présent du présent, l'intuition, et le présent de l'avenir et l'attente. Et je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que quelle que soit l'expérience du souvenir ou de la mémoire que l'on peut faire, c'est toujours une expérience qui se fait dans le présent. Donc elle est à comprendre probablement et à intégrer en nous comme étant une expérience perceptive qui n'est pas la restitution de quelque chose, mais qui a sa raison d'être dans le présent et dans l'instant. Et c'est peut-être là qu'il y a une piste à suivre. Donc un souvenir qui apparaît ou qui revient, comme on le dit d'habitude, on ne sait pas s'il a été créé, s'il a été transformé, mais toujours est-il qu'il aura un impact sur l'instant présent. Et c'est cette dimension qui va être intéressante. Et pour ma part, en tant que clinicien, évidemment, c'est cette dimension qui va être intéressante. C'est pas de savoir, comme on dit dans une clinique, l'anamnèse une forcément intéressante, mais par contre, comment la personne vit là, dans l'instant présent, dans sa vie actuelle, cette expérience qu'elle attribue au passé.
Et le fait de penser que les souvenirs reflètent une réalité, est-ce que c'est remis en cause par cette conception de la finalité de la mémoire ou pas ?
Oui, alors ces notions de la fidélité de ce que restituerait la mémoire ou le souvenir. Alors ça, c'est une question, c'est peut-être celle-là qui m'a amené à cette question, puisque en tant que praticien en hypnose, je pratiquais surtout dans le domaine de la douleur, mais j'étais confronté à ces questions qui qui sont à cheval entre la médecine et la justice, puisque dans le domaine de la justice, à un moment donné, et toujours dans certains tribunaux aujourd'hui, on a cru bon de faire recours à la pratique de l'hypnose pour essayer de restituer des événements enfouis dans la mémoire, soit d'une victime, soit d'un agresseur. Et dans ce cadre-là, en ayant été sollicité dans cette ambiguïté de deux contextes, c'est-à-dire, moi je travaille plutôt dans le domaine du soin, mais de se retrouver dans le domaine de la justice qui cherche à établir des faits et la vérité, alors là, j'ai vécu cet électrochoc, si vous voulez, parce que de se rendre compte que ce qui se passe dans l'expérience hypnotique, comme on l'appelle, et qui permet d'explorer la mémoire, les souvenirs, de manière générale, eh bien, ne présentait pas d'éléments de réalité ou de fidélité à la réalité de ce qui avait été fait. Et effectivement, en allant un peu plus loin, en voyant un peu ce qui se passe à travers le monde aussi, ces 50 dernières années sur cette question, on a parlé des faux souvenirs, des souvenirs leurs, il y a eu toutes sortes d'éléments, notamment sur la fidélité des témoignages, vous l'avez évoqué en introduction aussi, sur les témoins d'un drame, par exemple, eh bien, on se rend compte que la fidélité de notre mémoire est relative. Relativement faible, voire même qu'elle est extrêmement manipulable. Donc oui, je pense que nous pouvons tous faire l'expérience, et c'est des expériences intéressantes à faire aussi. On le fait parfois avec des personnes en formation, hein, on fait des séminaires où on arrive à travailler, à constituer ce qu'on appelle des souvenirs leurs, par exemple, des souvenirs transformés, voire même des souvenirs d'événements que les gens n'ont jamais vécus, et après quelques séances, ils peuvent être convaincus de les avoir vraiment vécus. Et ça, c'est des phénomènes très troublants quand on les vit au début, aussi troublants que la vidéo de Gorilla que vous évoquiez tout à l'heure. C'est troublant de se rendre compte que notre perception n'est pas forcément fidèle à une réalité que nous pensons, et que nous sommes beaucoup plus plastiques que nous le pensons d'habitude.
Pierre-Henri Gouillon.
Oui, je pense que ça serait vraiment bien que tout le monde comprenne ça. Ça éviterait des tas de conflits dans les familles, parce qu'il y a une expérience que tout le monde fait, un jour ou l'autre, dans sa famille. C'est l'expérience de deux personnes qui, sur un même sujet, ont des souvenirs incompatibles et qui s'engueulent sans être capables de dire « oui, bah oui, il y en a un des deux au moins dont la mémoire est défaillante sur ce coup-là » et qui sont tous les deux absolument convaincus d'avoir raison. Et je pense que si on savait à quel point notre mémoire est peu fiable, eh bien, ça éviterait beaucoup de conflits.
Voilà, on est plus habitué peut-être à avoir des trous de mémoire qu'à avoir des fausses mémoires ou des mémoires qui ne sont pas aussi précises, alors qu'on a la sensation qu'elles le sont.
Mais alors justement, dans les histoires de faux souvenirs que vous arrivez à implanter dans des gens, vous écrivez à l'avance le truc dans une lettre cachetée pour qu'après ils puissent voir que leurs souvenirs ne sont pas vrais, parce qu'une fois qu'ils sont convaincus que ces souvenirs sont réels, comment vous arrivez à les...
Elle est détrompée.
Elle est détrompée, oui.
Éric Bonvin.
Oh, on n'est pas dans ce genre de, je dirais, d'hostilité dans le moment où on le fait, non, parce que ça peut être des éléments tout simples. Voyez, par exemple, vous faites une expérience avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Une personne, à un moment donné, fait irruption dans votre séminaire ou dans votre cours. Ça peut être une femme qui est habillée de noir avec des longs cheveux. C'est assez simple à restituer. Ensuite, on reprend avec le groupe en fin de journée. Et puis, alors, par rapport au témoignage que vous évoquiez tout à l'heure, ben, vous verrez que des personnes diront que c'était un homme en jeans, jeune. D'autres diront que c'est un homme chauve, d'autres une femme blonde en mini-jupe. Enfin, vous voyez. Et c'est ça qui est très intéressant. Et là, les gens s'en rendent compte, puisque vous faites revenir la personne qui était venue le matin.
Ah,
et
puis, mais Simone, vous en prend directement. Simone, ça fait aussi des tests comme ça avec une personne qui demande un renseignement à quelqu'un sur le campus. Il le filme depuis les fenêtres du labo. Et puis, il y a des ouvriers qui passent avec une planche et qui séparent les deux personnes. Et l'un des deux ouvriers, en fait, prend la place de celui qui avait demandé le renseignement. Et la personne qui était en train de fournir le renseignement continue à parler à l'autre sans se rendre compte que la personne qui est en face de lui n'est plus la même. Donc,
des mentalistes aussi. Un mentaliste a utilisé le même dispositif et a changé le nombre de personnes très souvent, enfin avec à de nombreuses reprises. Et quelle que soit la différence qu'il y a dans les personnes qui se remplacent, ça peut passer d'un homme blanc à un homme noir ou à une femme, celui dont l'attention est attirée par la carte sur laquelle il résonne, ne s'en rend pas compte. Donc c'est très spectaculaire.
Et je crois que c'est... Et vous voyez, en plus, alors là on parle de lorsqu'on est en relation avec autrui, mais ce qui est très troublant aussi, les expériences sont faites aussi sur les personnes, la capacité ou le fait que les personnes se dénoncent elles-mêmes lorsqu'on les accuse dans le domaine judiciaire, par exemple, d'un acte délictueux. Selon le contexte et la manière dont ça se passe, au bout d'un certain temps, les personnes vont jusqu'à accepter et à intégrer totalement le fait qu'elles aient agi d'une manière délictueuse alors qu'elles ne l'ont pas fait. Et ça, c'est aussi extrêmement troublant parce qu'on arrive carrément dans le cœur de notre... De la relation à soi, c'est-à-dire de son identité, de sa biographie, de la validité ou de la fidélité de ce que je pense de ma vie et de moi-même par rapport à ce qui a pu se passer.
Le phénomène peut exister aussi pour les aveux,
Totalement, il existe pour les aveux, ce qui pose de grands problèmes dans le domaine de la justice, enfin de grands problèmes parce qu'on entend souvent parler de condamnation qui aurait été faite à tort ou autre, c'est un des aspects. Puis de l'autre, nous avons aussi les personnes qui passent aux aveux alors qu'elles n'ont pas commis les actes en question, mais qui sont convaincues de les avoir commises. Et ça, c'est des situations qui sont très troublantes, voyez. Et on retrouve cette même chose, c'est-à-dire que c'est pas seulement dans la perception du monde, mais même dans la perception de soi, de son identité, ou dans notre culture, c'est depuis le XVIIe siècle, hein, où on introduit cette notion d'identité qui est liée à la permanence de la conscience de soi, de la naissance à la mort, et de la perception de ses propres actes. Et même là-dedans, nous nous rendons compte que la fidélité que nous avons de notre... au niveau de notre mémoire épisodique et des souvenirs, n'est pas tout à fait si fidèle que cela.
Bruno Falissard.
Moi, je crois qu'il y a une ambiguïté sur le mot mémoire dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, mémoire, c'est une calculatrice, je fais des opérations, et le résultat, je le mets en mémoire, et puis je vais le retrouver tel quel 5 secondes après. Et on peut faire ça, on peut faire des calculs, on peut se souvenir de résultats et les ressortir. Et donc on pense systématiquement que si on est capable de faire ça, alors on fonctionne comme une calculatrice, et nous avons dans notre cerveau des choses imprimées que l'on est capable d'aller chercher. Mais regardez, vous êtes parti de votre boulot, et puis vous rentrez chez vous, vous êtes en face de votre porte et vous mettez les mains dans votre poche. Zut, vous n'avez plus les clés de chez vous. Et vous vous dites, mais où sont les clés? Et vous n'allez pas rechercher dans votre tête où sont les clés. Vous allez refaire le chemin que vous avez pris depuis que vous êtes parti de votre bureau. Et puis vous vous dites, zut, elles sont tombées dans ma voiture. Il faut que je retourne dans ma voiture pour aller les chercher. C'est-à-dire que le vécu de la mémoire au quotidien, ce n'est pas comme une calculatrice, c'est une association. Pour se souvenir de quelque chose, il faut raccrocher ces souvenirs les uns aux autres, et à un moment donné, on va en trouver un qui est pertinent. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a eu dans les années 80 des modèles connexionnistes qui ont réussi à formaliser ça et à représenter la mémoire non pas comme des bits stockés dans un ordinateur, mais comme des réseaux d'attracteurs, où par exemple, on a l'attracteur, à force de voir des arbres, de les sentir, de les toucher, on a quelque part un attracteur d'arbres. Quand on voit un arbre, que ce soit un peuplier ou un chêne, on dit c'est un arbre et on s'en souvient. Et à l'intérieur de cet attracteur, il y a des sous-attracteurs, chêne, hêtre, petit arbre, arbrisseau, arbuste, etc. Et donc on voit que l'ensemble de notre mémoire constitue l'ensemble de notre expérience par rapport à ce que l'on a vécu. Et donc finalement, la mémoire se rapproche de ce qu'on est, nous, sujet pensant.
Alors justement, Éric Bonvin parle de rapport avec l'identité et on va en parler tout de suite.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Comment fonctionnent les illusions produites par notre cerveau? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. Éric Bonvin, anthropologue, médecin, psychiatre et psychothérapeute praticien. Bruno Falissard, psychiatre, professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud. Et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Éric Bonvin, ces retours de mémoire, je crois que c'est comme ça que vous les appelez aussi, qui se produisent sous hypnose et psychanalyse. Il est peut-être intéressant de décrire le phénomène, parce que justement, il intervient aussi très fortement il peut intervenir dans les procès ou dans les question de justice. Comment se passent ces retours de mémoire problématiques?
Oh, d'abord, je crois, le retour de mémoire, c'est... Je ne sais pas si c'est un retour, moi je ne l'appellerai pas vraiment comme ça, parce que ça peut être très bien, tout aussi bien une création. C'est une expérience qui se fait dans l'expérience de l'hypnose. Mais l'expérience de l'hypnose, d'abord, peut-être pour préciser, hein, je pense que c'est une expérience qu'il ne faut pas non plus trop mystifier. C'est simplement une expérience liée à l'attention et à nos aptitudes attentionnelles. Donc, l'attention va se porter sur une dimension particulière des perceptions dans l'instant de soi-même, de sa vie ou autre chose. Et là-dedans, il y aura une expérience perceptive qui va se développer. Et cette expérience-là, alors, on peut lui donner une étiquette ou une qualification d'être dans le passé, mais sans que l'on soit sûr que ce le soit vraiment. Mais cela a donné l'impression, effectivement, à certains de pouvoir revivre, comme il le disait, des expériences passées qui auraient été importantes. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est que c'est aussi lié à l'histoire de la psychologie, de la psychiatrie et autres, qui a voulu donner une certaine valeur de réalité à cette restitution et qui a collé à cette expérience une croyance selon laquelle elle serait, cette expérience, fidèle à ce qu'il s'est produit, et donc on parle de restitution. Mais le doute est quand même très grand au niveau de la restitution, parce qu'en fait, il s'agirait surtout d'une création, d'une recréation d'une situation et d'une expérience perceptive. Donc l'hypnose n'a rien d'autre de particulier que celle de potentialiser, de donner un peu plus de force par la focalisation de l'attention sur ce type d'expérience-là. Mais alors évidemment, le mythe qu'il y a eu autour de cette expérience que l'on a attribué à la restitution d'un souvenir que l'on a cru véridique aussi, a évidemment amené à beaucoup de confusion. Mais cela parce qu'aussi cette technique de l'hypnose a été utilisée depuis le 19e siècle dans de nombreux contextes, et puis elle était évidemment liée à toutes les croyances que nous pouvions avoir sur la question de la mémoire. Et c'est en cela qu'il y a des choses qui paraissent parfois un peu spectaculaires. Mais dans le fond, l'expérience que nous avons dans la clinique de l'hypnose n'est autre qu'une une intensité un peu plus forte de ce que l'on vit habituellement, parce qu'on y porte une plus grande attention, je dirais.
Mais c'est aussi... Pierre-Henri Gouillon voulait intervenir.
Bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un seul phénomène ou deux différents dans ces histoires? Parce que au moment même où on perçoit quelque chose, l'œil fonctionne peut-être comme une caméra au sens de au départ, c'est-à-dire que l'image vient sur la rétine, mais ensuite ce que la rétine transmet au cerveau et ce que le cerveau va prendre là-dedans, c'est certainement pas toute l'image. C'est, comme vous le disiez, comme ça a été dit tout à l'heure, ces attracteurs, c'est-à-dire que j'ai en face de moi Michel Albert-Gonti, j'ai pas besoin d'enregistrer la tête qu'il a, puisque si jamais j'ai besoin de le savoir, eh ben j'ai qu'à retourner les yeux vers lui et le revoir, donc ça j'enregistre pas, j'enregistre juste que là, il y a Michel Albert-Gonti dans le studio de Radio France. Et puis si quelqu'un rentre dans le studio, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh ben, j'ai pas besoin de noter quelle tête a la personne, parce que je sais juste qu'il y a une personne qui est rentrée et je n'enregistre que ça. Donc évidemment, si jamais ensuite j'essaye de rappeler un souvenir et que de toute façon j'ai rien enregistré au départ, c'est pas seulement que je retrouve mal quelque chose qui a été enregistré, c'est que tout simplement il y a rien eu dès le départ d'autre que des attracteurs comme ça enregistrés. Et du coup, voilà ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dès le moment de la perception, où déjà, de toute façon, on n'enregistre pas les choses telles qu'elles sont, mais une interprétation? Et est-ce qu'il y a même ensuite des choses qui sont modifiées par le phénomène de mémorisation et de restitution?
Et à quel moment se fait la sélection?
Bien sûr.
Est-ce que c'est des processus différents? Est-ce qu'il se passe au moment de la perception? Est-ce qu'il se passe au moment où on essaie de rappeler un souvenir? Ou est-ce que c'est carrément la même chose?
Ouais. Alors si on prend les différentes étapes, à chacune de ces étapes, vous aurez des processus de modification. D'abord, vous avez la perception. La perception, elle est sélective. Votre œil, comme vous le disiez tout à l'heure, va s'arrêter et va évidemment choisir ce qui lui paraît essentiel et va mettre les autres choses de côté. Ce sont les expériences classiques que l'on fait dans le domaine de l'attention. Lorsque vous focalisez l'attention sur un point, ben vous ne voyez pas le reste. Hein. Donc c'est la fameuse expérience de Troxler et tout cela. Vous voyez disparaître l'image lorsque vous fixez un point. Donc évidemment, la vision, la perception, si on parle de la vision, elle est déjà discriminante. Ça, c'est une première étape. Ensuite, vous avez l'encodage. Alors l'encodage, c'est comment est-ce que ces informations vont être retenues quelque part dans notre système, que ce soit des connexions, comme cela a été évoqué tout à l'heure.
Alors, un petit problème technique, semble-t-il, dans la liaison avec Éric Bonvin. J'espère que ça va être...
C'est un problème d'encodage.
Alors, c'est au moment où il a parlé d'encodage, d'ailleurs, que la machine s'est un peu accélérée.
Ça repart.
Ça repart, là. Est-ce que vous nous entendez, Éric Bonvin? Bon. On va couper une seconde. À moins... D'accord, donc on a un vrai problème avec le duplex. Donc on va continuer peut-être en attendant le retour d'Éric Bonvin. Et on va continuer à parler
entre
de
nous,
cette
moi,
mémoire.
Il y a un point sur lequel je voulais revenir tant qu'à faire, parce qu'il parlait d'encodage. Bon, je comptais revenir après les dessus, mais on peut commencer tout de suite. Parce que justement, cette histoire d'encodage, moi je trouve ça fascinant. Tout compte fait, des informations codées, encodées, on en connaît plusieurs sortes. Et ça, c'est un de mes sujets de recherche personnelle. Donc... il y a l'écriture humaine qui est une manière d'encoder un message. Il y a l'ADN qui est une manière d'encoder un message. Ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, avec la mémoire, on n'a aucune idée de la façon dont c'est encodé. Et enfin voilà, je trouve qu'on n'a aucune idée, mais voilà, c'est ça que je voulais poser comme question.
Bruno Falissa.
Oui, on n'a aucune idée. On en a quand même quelques-unes, notamment cette histoire de structure d'attracteur hiérarchique. C'est-à-dire qu'on encode l'arbre avec dedans tous les sous-types, etc.
Mais où physiquement, comment? Voilà, parce que l'ADN, je sais comment c'est fait. Une feuille de papier avec un truc écrit dessus, je sais comment c'est fait. Un CD, je sais comment c'est fait. Mais la mémoire, j'ai des neurones.
C'est le pattern de connexion neuronale.
Le réseau.
C'est le pattern de connexion neuronale qui met en empreinte dans lui-même l'ensemble du réseau d'attracteurs qui constitue à la mémoire. Donc en fait, la mémoire est un processus émergent que l'on ne peut pas voir directement dans les neurones, mais ce réseau d'attracteurs émerge des neurones. On a bien le processus émergent qui ne peut pas se réduire à l'ensemble des structures qui le font émerger, mais dans lequel il est quand même contenu.
Mais ça, c'est extraordinaire, parce que ce soit le langage humain écrit sur une feuille de papier ou le langage de l'ADN écrit sur de l'ADN, bien sûr, il y a toute une émergence de système de lecture, parce qu'une fois quelque chose écrit sur une feuille de papier, il y a plein de choses compliquées pour le lire, ou qu'une fois quelque chose écrit sur l'ADN, il y a tout plein de processus très compliqués pour le lire aussi. Mais là, pour la mémoire, le système, l'encodage est pas visible directement, et ça, c'est quand même très curieux. C'est
à cause de l'émergence, précisément.
On va revenir. Éric Bonvin, vous nous entendez maintenant?
Je vous entends.
On parlait d'encodage, justement. Quand
désolé.
Vous aviez lancé l'idée d'encodage.
Désolé cette interruption. Mais comme vous aviez lancé le sujet de la perception et de l'encodage par le cerveau, nous avons poursuivi un peu dans cette voie. On va vous laisser terminer ce que vous étiez en train de dire et malheureusement qui a été coupé.
Oui, alors j'ai eu quelques bribes de votre discussion tout à l'heure, donc je vais compléter, je vais compenser. Ça se fait souvent avec la mémoire.
Voilà.
La colmate finalement les manque, donc je vais essayer de le faire de cette manière. Oui, je parlais d'encodage parce que déjà, alors avant d'arriver dans les questions de la structure ou de la matière dans laquelle on encoderait les informations, c'est déjà le contexte dans lequel on se trouve, parce qu'on se rend compte que selon, évidemment, le climat émotionnel, le climat même peut-être physiologique dans lequel on est, nous allons encoder les choses d'une manière différente. Ensuite, où cela est encodé? Alors évidemment, c'est une grande question qui traverse aussi les époques et les moments. On a parlé de connexionnisme tout à l'heure, parfois on a aussi les théories cellulaires, mais même les théories cellulaires aujourd'hui, vous voyez, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent que ce qui est le plus important aussi, c'est que de voir que ce qui évolue beaucoup avec les cellules, c'est déjà l'oubli. C'est toutes les recherches qui ont été faites sur l'amnésie infantile, par exemple, de se dire comment se fait-il qu'on ne se souvienne pas, on n'est pas de trace amnésique comme ça de la période infantile. On se rend compte que c'est probablement, aujourd'hui, la théorie dit que c'est lié vraiment à l'évolution. Plus il y a régénération ou génération cellulaire, là notamment au niveau de l'hippocampe dans le cerveau, sur l'aire striée, plus il y a la génération cellulaire, puisque cela continue à ce niveau après la naissance de l'enfant, et plus évidemment l'expérience probablement d'acquisition d'informations est forte, mais d'oubli en même temps, parce que plus les générations cellulaires arrivent et plus on oublie les précédentes en quelque sorte. Donc c'est un grand mystère, cette question de l'encodage. Mais il y a aussi un autre élément que j'aimerais signaler par rapport à cela, c'est qu'on cherche beaucoup à l'interne ou à l'intérieur de l'être humain où se situe tout cela. Et puis, cliniquement, moi j'ai toujours été très frappé aussi, je m'adresse aussi à mon confrère psychiatre, mais lorsque nous avons dans ces phénomènes de désafférentation que nous connaissons, par exemple, j'ai longtemps travaillé dans les centres de grands brûlés, par exemple, où nous avons ces expériences très étranges où le patient qui est désafférenté, comme on le dit, c'est-à-dire qu'il n'a plus de contact avec sa propre identité, il n'arrive pas à identifier les gens qu'il voit parce qu'ils sont tous masqués dans des situations d'asepsie et autres, il a une lumière qui est constante, il n'y a plus de lien avec les rythmes circadiens du jour et de la nuit, et ces personnes-là se déstructurent, si vous voulez, au niveau de leur conscience, au point même de perdre leur propre identité et leur mémoire de toute chose. Et vous introduisez à un moment un élément, ce qu'on appelle un indicateur de contexte aussi, à un moment donné, un élément extérieur va lui-même rappeler aussi toute la mémoire, comme si c'est cet élément extérieur qui contenait aussi la mémoire. Donc c'est des choses qui sont très troublantes de ce point de vue-là, mais évidemment, tout ce mécanisme-là de l'encodage et ensuite de la restitution est lié à modification permanente. Et donc, ensuite, on a l'étape du rappel. Qu'est-ce qui va faire qu'une information, j'évoquais l'exemple là d'une photographie que l'on présente à un patient qui est désafférenté, qu'est-ce qui va rappeler une expérience que l'on va attribuer au passé? Ça, évidemment, ça va de nouveau dépendre du contexte. Mais aussi, ce que nous savons, c'est qu'à chaque rappel, un rappel n'est pas une chose en soi que l'on peut mettre autour d'un simple substantif, c'est une expérience et elle ne peut être qu'accompagnée que d'une narration. C'est l'expérience aussi de la clé perdue tout à l'heure. Chaque expérience que l'on attribuerait au passé, lorsqu'on doit la restituer, même à soi-même, nous allons l'inscrire dans une narration qui, elle, à nouveau, va être totalement dépendante du contexte. Hein. Et c'est vrai que tout le monde peut faire cette expérience. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être marseillais, comme on dit chez nous, pour se rendre compte que l'on va changer la narration, par exemple, d'un souvenir en fonction de l'interlocuteur, du moment, de l'intensité de ce que vont dire. Puis on est sans arrêt en train, si vous voulez, si on prend comme critère de référence la fidélité, on est sans arrêt en train de travestir cette fidélité-là. Chaque être humain en fait l'expérience en permanence. Donc vous voyez, à chaque étape, effectivement, nous rencontrons cette labilité, cette plasticité de ces phénomènes, si l'on prend cela en référence à la notion de fidélité ou de véracité des choses. Et donc, c'est ça. Alors, on voit que le parcours que devrait suivre la véracité des faits dans une structure comme celle-là est assez compliqué.
Pour revenir à l'exemple que vous donniez sur les patients qui sont dans des services de grand brûlé, vous me disiez quand on préparait cette émission qu'ils vont jusqu'à oublier, pour certains, leur nom.
Totalement, oui.
Ce qui montre à quel point, dans un contexte qui est coupé du reste de leur identité, c'est l'identité même qui disparaît ou qui a du mal à être retrouvée, Pierre-Henri Houillon.
Justement, il a du mal à le retrouver, il l'oublie, mais c'est facile de le refaire retrouver ou pas?
Ben, en changeant le contexte, c'est ce que, oui. Eric, non, c'est ce que vous avez dit, Eric Bonvin. Il suffit d'un élément de contexte familier ou
comment ça se passe en réalité?
Oui, Eric Bonvin. Alors ça, c'est tout le travail qui se fait relationnel avec le patient pour, d'une part, ramener des éléments qu'il puisse identifier à un moment donné et auxquels il va pouvoir se raccrocher. Mais là, il y a ce qu'on appelle des indices de rappel, comme ça, qui peuvent revenir et qui sont recherchés. Alors, simplement, on ne sait pas lesquels ils seront. Pour certains, c'est le fait de retrouver, par exemple, un rythme nictéméral ou de revoir la lumière du jour, de voir de la nuit, d'autres de retrouver un objet personnel, une bague, un habit ou que sais-je. Vous voyez, il y a des tas de petits éléments, mais c'est ce que nous allons chercher avec ces personnes-là pour qu'elles puissent se reconnecter en quelque sorte à cela. Mais pour ça, il faut solliciter son contexte et son environnement. Et ça, c'est un élément intéressant. Du reste, il y a aussi des réflexions sur la conscience. On nous dit, est-ce que la conscience, la conscience humaine ou la perception de soi ne peut pas exister sans la présence de l'environnement, de l'autre et d'autrui. C'est des vieilles questions que l'on a en philosophie, en psychologie. Donc, on situe toujours, on a notre obsession, je dirais, de notre modernité qui est d'aller chercher en soi, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses dans l'interaction. Et ouais. Je trouve que la dimension de la mémoire qui est en lien avec le système nerveux est très intéressante de ce point de vue parce que le système nerveux, notre cerveau, il se développe que dans l'interaction avec l'extérieur. Donc il y a, je dirais, plus que d'essayer de fixer un endroit où se trouverait la mémoire, de fixer une temporalité dans l'expérience. On parle de la mémoire et du passé, mais en fait je crois que l'expérience est toujours un mélange de tout cela. Dans chaque expérience de l'instant, il y a des traces du passé, de l'attente de l'avenir, des liens avec ce qui est à l'extérieur et de ce que je perçois. Et c'est cette complexité-là que l'on rencontrera à chaque étape de définition de ces différents aspects.
Bruno Falissard.
Oui, cette perte de contexte, cette déréalisation du patient dans le service de Grand Brûlé, en fait, on l'expérimente tous quand le matin vous vous réveillez, que vous êtes encore dans votre rêve et la réalité autour de vous prend possession du rêve et vous n'arrivez plus à rentrer dans le rêve disparu. Et c'est comme si donc le Grand Brûlé, en fait, vit dans un rêve quand il est dans son service de Grand Brûlé et vous avez besoin de le recontextualiser, de faire sonner le réveil pour le faire revenir dans son existence. À propos de la véracité, alors, on pourrait s'étonner au contraire de revendiquer une véracité de nos souvenirs. C'est qu'en réalité,
on le fait spontanément.
Mais oui, mais c'est que en réalité, d'abord, il y a une réalité extérieure à nous, certes, certes. Mais quelle prétention de dire que nous pourrions véritablement avoir accès et nous représenter cette réalité. Nous nous représentons ce que nous pouvons nous représenter. Et le miracle, c'est que nous nous représentons à peu près la même chose les uns et les autres, que donc nous pouvons vivre ensemble.
Ben, pas toujours, justement.
Alors oui, c'est absolument. Ça, et du coup, il peut y avoir des illusions. Et on est surpris de ces illusions. Mais en réalité, regardez, vous pouvez voir un autobus qui passe, vous dites il est vert, et votre compagne va dire, ben non, il est jaune. Et donc, nous avons des différences de perception, de représentation, de mémorisation des choses. Un même tableau, dans un musée d'art contemporain, peut faire revenir une certaine représentation à un spectateur et une autre au même spectateur ou à quelqu'un qui est proche.
Est-ce que ça, c'est pas tout toute la question de la subjectivité par rapport à une conception plus ou moins objective de ce phénomène, alors que visiblement, cette objectivité n'existe pas et donc on s'y accroche quand même fortement la plupart du temps.
Tout à fait.
Bon, il fallait ça.
Doit-on considérer que la réalité préexiste et que c'est ça le postulat et que nous sommes secondaires par rapport à ce postulat, ou doit-on être cartésien, c'est-à-dire ce qui préexiste c'est que je suis là, je pense, et secondairement il y a éventuellement une réalité que je perçois et elle m'appartient, enfin la représentation de cette réalité m'appartient, et réjouissons-nous qu'en général nous ayons les mêmes représentations et que nous puissions vivre ensemble.
Éric Bonvin.
Oui, alors je pense que ce qui est là, c'est évoque une question qui se pose depuis des siècles dans notre culture, je crois. On n'a toujours pas trouvé la réponse, heureusement peut-être aussi. Mais c'est vrai que on se trouve toujours dans cette complexité où se trouve la réalité, où la perception de soi, l'identité. Spinoza disait par exemple que la sensation d'une chose révèle davantage la nature de notre organisme que celle de la chose en soi. Donc, elle en dit davantage sur nous-mêmes que sur la chose que nous pensons percevoir. Et c'est là, on retrouve cette difficulté à savoir où se trouve cette réalité. Et effectivement, on l'attribue parfois à celle que nous créons, parfois elle existe indépendamment de nous. Comment prétendre que nous puissions la saisir à ce point-là et la comprendre, c'est une grande question. Et c'est vrai qu'on retrouve à chaque fois que l'on essaie, c'est la même chose sur la mémoire, puisqu'on est sur ce thème-là, à chaque fois qu'on essaie de définir la mémoire, eh bien, elle va aussi nous échapper parce qu'elle est intriquée dans une complexité, évidemment, de la vie qui est beaucoup plus grande que ce type de définition-là.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
L'encodage de l'information.
Comment fonctionnent les illusions produites par notre cerveau? C'est le sujet du débat du Club Sciences Publiques d'aujourd'hui, dont nous débattons avec nos invités. Éric Bonvin, anthropologue et médecin psychiatre, et psychothérapeute praticien. Bruno Falissard, psychiatre et professeur de santé publique à l'Université Paris-Sud. Et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Alors, moi je voudrais revenir sur cette question de intérieur-extérieur d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est ce qui a été évoqué plusieurs fois. Éric Bonvin, vous avez l'air de nous suggérer que la mémoire, finalement, elle n'est pas si à l'intérieur de nous que cela. D'ailleurs, même, vous allez jusqu'à penser que la conscience pourrait être également une partie d'entre elles, ou au moins sa réalité, pas totalement à l'intérieur de nous-mêmes. Comment vous voyez cette dualité entre ce qui nous donne l'impression d'être quelque chose que nous puisons dans les souvenirs du passé et dans ce qui se crée à l'instant présent, avec ces souvenirs bien entendu, mais en très forte corrélation avec le contexte dans lequel nous sommes.
Alors, je pense que pour répondre à cette question entre l'externe et l'interne, je préfère pour ma part me situer juste entre deux, c'est-à-dire à ce point de contact tout à fait particulier entre ce monde qui m'environne et mes perceptions. Et que c'est là que se situe l'expérience à propos. Puis cette expérience, elle ne peut se faire que dans l'instant aussi, parce que elle n'est pas reproductible, l'expérience, on l'a dit tout à l'heure, c'est une question qui se pose dans la philosophie de l'esprit, de se dire, est-ce que nous pouvons-nous nous mettre d'accord sur une définition d'une perception, d'une sensation, entre nous, entre plusieurs personnes, ou pour soi-même à différents instants, nous nous rendons compte que c'est extrêmement difficile. Donc il se passe quelque chose à l'interface permanente de cette tension entre l'externe et l'interne, si on prend cette image-là, et de l'instant où les choses se déroulent, et c'est là qu'il y a ce mystère, je dirais, de l'expérience de la vie, qui est toujours à l'interaction entre le monde dans lequel je me trouve, l'expérience que j'y fais, et puis cette notion du temps aussi. La notion du temps est très importante. Probablement que nous avons cette notion de la mémoire parce que nous avons aussi introduit cette notion du temps, du chronos, c'est-à-dire... Partant, on a parlé de Descartes tout à l'heure, mais de cette idée de notre culture de dire que la réalité se trouve dans les faits, dans la res, hein, c'est vraiment dans la chose, et que nous sommes déterminés par l'enchaînement des choses, qui fait l'histoire des choses en quelque sorte. Nous retrouvons là la temporalité du chronos, qui est vraiment ce calcul exact du temps, alors que c'est peut-être pas une représentation qui est universelle, dans le sens où elle est très propre à notre culture actuelle. Et là-dedans, cette notion du temps, la perception que l'on attribue au temps, parce que nous savons aussi que le temps n'existe probablement pas, mais cette perception que nous avons du temps, elle va conditionner toute cette expérience et la mémoire et la fixité de la mémoire que nous avons tendance à donner à cette expérience, elle est probablement liée à notre représentation du temps aussi.
Est-ce que ça veut dire qu'une quand on est dans un contexte donné, une relation par exemple avec une personne ou plusieurs, la mémoire que l'on convoque à ce moment-là n'a de sens et n'existe que dans ce contexte-là et que dans un autre contexte nous aurons une autre mémoire. Est-ce que la mémoire est complètement donc reliée et déterminée en grande partie ou en partie par ce contexte?
Oui, alors très probablement, je l'évoquais tout à l'heure lorsque je parlais du lien entre le rappel et la narration, c'est clair qu'on va faire les choses vraiment en fonction d'un contexte. Ça, c'est un élément qui est très important. Et le contexte dans lequel on se trouve, quand on dit contexte, il y a deux choses, je dirais. C'est l'environnement, c'est le contexte naturel, c'est vraiment l'environnement physique, si je peux l'appeler ainsi. Et puis, il y a ce qu'on appelle le contexte social. Le contexte social, il est défini par l'intentionnalité des acteurs en présence. Vous voyez, si je me retrouve dans le contexte médical, par exemple, c'est un contexte qui est défini par l'intention de se retrouver autour du soin, c'est-à-dire le soulagement d'une souffrance, qui est différent, pour reprendre un exemple tout à l'heure, du contexte de la justice, qui est un contexte dans lequel l'intention qui prévaut entre les acteurs, c'est d'établir des faits, une vérité, et puis éventuellement une réparation. Et c'est ces intentionnalités dans la relation qui vont influencer à la fois mon comportement, mes perceptions, mes attentes surtout aussi. Et c'est clair que tout ce qui va se passer dans cet instant-là va être chargé par cette intentionnalité. Alors oui, je pense que une expérience, la restitution d'un souvenir par exemple, est fortement influencée par le contexte à la fois naturel et social, lorsqu'il a lieu dans un contexte social, lié à l'intentionnalité qui définit ce contexte.
Pierre-Henri Gouillon.
Oui, sauf qu'il y a une difficulté là, parce que, bon, évidemment, on n'a accès qu'à nos représentations, et donc la question de la chose en soi, on ne va pas refaire du Kant, etc. ici, mais est posée simplement... Bon, d'abord, moi, je fais de la recherche scientifique en biologie. On ne peut pas faire de la recherche et on n'a pas pu faire la moindre découverte scientifique sans imaginer quand même qu'il existait quelque chose qui était de l'ordre de la réalité et qu'on essayait de l'approcher et qu'on essayait de pallier les insuffisances de nos représentations. Et quand même, d'une certaine façon, ça marche au moins sur le plan du fait de devenir un peu prédictif, parce que une des preuves quand même que la science fonctionne, c'est qu'elle est capable de prédire des choses qu'on n'aurait pas prédites autrement. Et d'ailleurs, je pense que dans l'expérience quotidienne des gens, c'est un peu la même chose. Bien sûr, je suis conscient du fait que ma mémoire peut me tromper, et je pense qu'on... d'ailleurs, je suis conscient mais quand j'y pense, mais c'est pas comme ça que je fonctionne toute la journée. Toute la journée, je fais comme si ma mémoire se souvenait parfaitement de tout. Ceci dit, je suis d'accord avec le fait que mes souvenirs vont un peu différer en fonction du contexte, mais en même temps, si jamais vous me demandez de réciter la fable du loup et l'agneau, bah ça sera les mêmes mots, quels que soient les contextes, parce que voilà, elle est dans ma mémoire et que je la connais. Si on me demande de parler, je sais pas quoi, moi, puisque c'est mon boulot, des quatre nucléotides qui constituent l'ADN, et bah ils auront les mêmes noms, etc. Donc il y a quand même quelques bases qui sont un peu internes et un peu fortes et un peu de l'ordre d'une réalité qui dépend plus du contexte.
Bruno Falissard avant, peut-être qu'Éric Bonvin évidemment réagisse.
Oui, pour en revenir à des considérations très scientifiques et pour s'engager sur le problème de la prédiction que soulevait Pierre-Henri Gouillon, la bonne nouvelle, c'est que ces modèles connexionnistes de Hopfield des années 80 arrivent à modéliser une mémoire qui ressemble à la mémoire dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc en fait, on ne parle pas, même si on a cité des philosophes, il y a quand même des travaux scientifiques qui, à partir de petits modèles très simples, c'est-à-dire un neurone, c'est une cellule qui est allumée ou éteinte, les neurones sont reliés entre eux avec des liens qui ont une force comprise entre moins 1 et 1, avec un phénomène de seuil qui fait que quand un neurone est excité ou désexcité par les neurones qu'il y a autour, il va s'exciter ou se désexciter. Alors on a un réseau d'automates cellulaires qui a des propriétés statistiques. On peut calculer une température, une entropie de réseau. On peut montrer qu'il converge vers un minimum d'attracteurs, etc., etc. Donc il y a des travaux là-dessus qui permettent de s'approcher de façon formelle de choses très subtiles, des choses très subtiles et existentielles dont on a parlé. Alors le problème, c'est que c'est pas prédictif. C'est que c'est métaphorique encore aujourd'hui. Alors on peut s'en servir quand même pour faire du calcul, hein, pour faire le deep learning dont on parle aujourd'hui dans le champ des data science, pour parler anglais parce que c'est le jargon de ce type de domaine. Donc pour sur Facebook, voilà, les algorithmes qui reconnaissent des visages sont des algorithmes à base de réseaux de neurones qui quelque part sont pas loin de ces réseaux de Hopfield des années 80. Donc on a une formalisation qui permet de s'approcher de ce que le sujet humain vit. On a une formalisation qui a une efficacité technologique, mais elle ne permet pas de prédire ce qu'un sujet humain va faire.
Éric Bonvin, peut-être déjà sur la partie dont parlait Pierre-Henri Gouillon, d'une mémoire qui, elle, reste fidèle, au sens où elle est tellement concrète, tellement basée sur des choses vérifiables, qu'elle a peut-être échappé au contexte, justement. Éric Bonvin.
Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire, alors c'est certain, et je pense que on parlait beaucoup d'expérience de la mémoire, plus en lien avec le souvenir tout à l'heure, et l'exemple qui est repris en pouvant restituer par exemple un texte appris ou un élément comme celui-là, c'est clair que nous avons cette capacité-là, cette mémoire de travail qui nous permet de retenir des choses, probablement de manière assez précise, mais j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que lorsque l'on restitue un texte que l'on a appris, on s'est isolé pour l'apprendre, on l'a répété souvent et tout cela, on est dans une situation finalement relativement simple. Lorsque l'on est dans des situations existentielles, et là on touche plutôt cette fois le souvenir épisodique ou des choses comme ça, évidemment il y a une telle quantité d'informations qui sont gérées en même temps et qui vont être utilisées de manière aléatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, que là cela devient plus compliqué. Je crois que c'est ça, mais effectivement il y a aussi des situations d'expérience de mémoire qui fonctionnent bien. Malheureusement aujourd'hui, ces expériences-là nous voient être rivalisées par les machines qui deviennent plus puissantes. On a des prothèses externes de mémoire aujourd'hui qui deviennent très puissantes pour ce genre de choses. Mais cette capacité existe effectivement. Mais lorsqu'on arrive sur cette dimension plus complexe, plus subjective aussi, peut-être, je pense que c'est une dimension qui va être là. Et voilà. Pour le reste, j'ai envie de dire, je parlais du contexte et des intentions avant. Ce qui m'intéresse personnellement, et c'est dans le sens où je suis peut-être dans une posture légèrement différente du propos qu'il y avait tout à l'heure, c'est que mon intention pour ma part, dans ma démarche, n'est pas tant scientifique dans le sens de rechercher soit des causalités, des explications, des compréhensions qui sont passionnantes au demeurant hein, et que je trouve magnifiques sur un plan heuristique. Mais mon propos est plus orienté sur mon intentionnalité clinique, c'est-à-dire de soignant. En quoi est-ce que je peux, par la manipulation de ces dimensions-là, aider à l'expérience d'un soulagement, d'une souffrance? Et c'est là-dedans où peut-être il y a une utilisation un peu différente de ces différents aspects, mais qui très souvent se retrouve, et c'est ce qui est tout à fait passionnant.
Voilà, par rapport à la mémoire donc de ces textes ou de choses très précises, il faut voir aussi l'effort qu'il faut faire particulier pour arriver à graver, ce qu'on appelle, puisqu'on utilise ce terme de graver dans la mémoire, des choses qui finalement sont très très courtes, enfin de faible volume par rapport à l'ensemble de ce qu'on vit dans la vie courante.
Absolument, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'efforts que d'autres. Et puis c'est vrai qu'on n'est plus très entraîné. Vous avez parlé des prothèses comme nos téléphones qui font qu'on n'a plus besoin de retenir les numéros de téléphone. Évidemment, ça c'est sûr que ça change des choses. Et c'est sûr qu'on est infiniment moins capable d'apprendre efficacement des choses qu'à l'époque où on pouvait apprendre par cœur des livres entiers et où des moyens mnémotechniques incroyables avaient été mis en place, comme le fait d'internaliser complètement le schéma d'un château entier et de placer chaque phrase du livre quelque part dans le château. Moi, j'avoue que quand je lis des choses comme ça, je trouve ça extraordinaire parce que j'imagine même pas comment ça peut aider à mémoriser les choses. Je sais pas d'ailleurs si on a des modèles là-dessus aujourd'hui. Mais je trouve que les moyens mnémotechniques employés au Moyen-Âge étaient manifestement d'une efficacité folle et en même temps complètement incompréhensibles pour quelqu'un d'aujourd'hui.
Alors, est-ce que la meilleure compréhension des mécanismes de la mémoire tels que vous les expliquez, Éric Bonvin, peut, et là on retourne peut-être dans le cadre du soin, peut aider les patients? Qu'est-ce que cette démystification un petit peu du fonctionnement de la mémoire peut apporter à, ben, déjà à tout le monde, mais plus particulièrement encore à des patients que vous pouvez traiter?
Oui, alors je pense que la première chose, c'est de pouvoir introduire cette dimension plastique et malléable de la mémoire et donc du souvenir, permet évidemment d'ouvrir des portes et des possibilités à ce qu'on appelle le changement, si on veut bien, le changement de perception de ce qu'il advient dans mon existence et de ce que je perçois de ma vie. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important. C'est clair qu'on est la judiciarisation de notre culture, et avec la défense aussi de la position de la victime aujourd'hui, est basée sur le fait qui a été établi et sur le fait que la victime doive effectivement conserver de manière extrêmement précise ce souvenir d'un traumatisme, par exemple. Alors le fait d'introduire cette dimension de possibilité de modifier ce souvenir qui est traumatisant et qui continue à traumatiser lorsqu'il est présent, est une possibilité thérapeutique qui est évidemment intéressante. Et puis une autre dimension que j'aimerais amener aussi, c'est et qu'on n'a pas tellement évoqué aujourd'hui, mais il y a quand même un autre aspect de la mémoire qui est très, que je trouve extraordinaire pour ma part, c'est la mémoire d'apprentissage. Lorsque vous apprenez à aller à vélo, au début vous devez penser à chaque geste, à chaque chose que vous faites, mais le jour, aujourd'hui, si vous savez aller à vélo, utilisez votre vélo. Si vous pensez à ce que vous faites, vous risquez bien de vous retrouver dans le fossé. Donc cette dimension-là, c'est-à-dire d'apprentissage avec attention, où il faut se mémoriser et intégrer des gestes, une mobilité qui elle-même va être oubliée. Et plus elle sera oubliée, et plus on sera à l'aise avec ce que l'on restitue. Et cette dimension-là, pour revenir à la question thérapeutique, est très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans l'apprentissage, dans le sens général, hein, sans être moralisateur, mais l'apprentissage de la vie, une aptitude à oublier, c'est-à-dire à oublier tellement les éléments de représentation que l'on a de la vie qu'on peut être totalement intégré dans cette vie en ayant oublié les choses, mais en les faisant, en étant totalement dans l'agir. Et cette dimension est très intéressante aussi. Elle peut aussi, dans cette situation thérapeutique où le monde de la perception et de la représentation envahit en quelque sorte la personne, la fait souffrir par ses souvenirs, par ses pensées, par ses obsessions, que sais-je, eh bien de pouvoir aller dans une démarche qui intègre cette dimension de la modification, voire même de l'oubli, peut-être très intéressante. Et peut-être pour conclure aussi là-dessus, c'est que c'était une réflexion que faisait Pierre Janet, du reste, il y a plus d'un siècle, lorsque, dans le traitement des traumatismes, il travaillait déjà beaucoup avec l'oubli, avec cette capacité qu'avaient les gens à oublier le traumatisme qu'ils avaient vécu pour pouvoir ensuite réintégrer une vie qui soit plus agréable ou plus apte, qui permette davantage à être intégré dans le monde social et dans le monde de la vie elle-même. Et je pense que cette dimension est aussi à prendre en compte, cette capacité d'aller au-delà de la mémoire, c'est-à-dire qu'après avoir appris, après avoir mémorisé, il y a aussi ce temps de l'oubli qui est un temps de réintégration dans l'acte, dans la vie.
Bruno Falissard.
Alors, incontestablement, la mémoire en clinique, le point de cristallisation, c'est le trauma. Et juste faites cette expérience, qu'est-ce que vous avez en mémoire comme représentation de ce qu'est un corps humain ? Donc vous avez quelque chose de lisse avec une peau glabre, et vous n'avez absolument pas en tête le fait qu'à l'intérieur du corps humain, il y a des organes, des os, des vaisseaux sanguins, du sang, etc. Et donc si jamais vous êtes spectateur d'un accident de la route et que vous voyez que le corps humain fait sortir de lui-même des organes, il y a une effraction de ce réseau très profond de représentation que vous avez d'un corps, et la représentation d'un corps humain, chez nous, c'est quelque chose d'important. Le fait de voir que la réalité est en fait incompatible avec votre a priori de ce que vous avez sur ce qu'est un corps humain, eh bien ça fait un trauma. C'est le viol, l'inadéquation qu'il y a entre ce que vous constater de ce qu'est un corps humain et de ce que vous en aviez en mémoire.
C'est que là, il n'y a pas, justement, il y a un défaut de mémoire de ce que l'on est en train de voir.
Oui, il y a une inadéquation entre vos représentations et ce qu'est la réalité, parce que, en fait, nous ne savons rien de la réalité d'un corps humain. Nous sommes un corps humain avec à l'intérieur de nous des organes, et nous ne savons rien de notre estomac, de notre foie et de notre intestin. Et le jour où l'on voit qu'à l'intérieur de nous, il y a cet estomac, alors c'est quelque chose d'impensable, et ça se traduit par un trauma qui est très difficile à rattraper.
Alors Éric Bonvin, là, Bruno Falissard parle d'une situation qui malheureusement est un peu d'actualité avec les personnes qui doivent être aujourd'hui traumatisées par les attentats de Bruxelles, comme d'autres ont été traumatisés par les attentats de Paris,
et donc ou d'ailleurs,
mais bon, ce sont les derniers effectivement qui nous touchent de très près. Comment vous traitez ce genre de situation? On a à l'époque fait une émission sur cette question du post-traumatique après ces attentats. Est-ce que par rapport à la mémoire, justement, il y a des stratégies particulières qui peuvent aider ces personnes?
Oui, alors des stratégies, après ça dépendra de chaque personne, mais je crois que c'est important ce que Bruno Falissard vient de dire. C'est vrai que dans ce qu'il évoquait tout à l'heure, cette irruption dans la perception d'une chose qui n'était pas imaginable auparavant, qui est presque de l'ordre de l'effroi parfois, mais amène à une fixation de cette dimension. C'est ça, la fixation du traumatisme qui va être figée. Donc on est dans un processus de mémoriel très important, parce que cette image-là, elle va se fixer, qu'elle soit fidèle ou pas, mais elle va se fixer très profondément.
Merci.
Et il s'agira de la remettre en mouvement.
Je suis désolé, malheureusement, voilà. L'heure de la fin du débat du Club de Sciences Publiques d'aujourd'hui arrive. Merci donc à Éric Bonvin, Bruno Falissard et Pierre-Henri Gouillon d'y avoir participé. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez visionner la vidéo de l'expérience de Christopher Chabrus et Daniel Simmons et lire l'ouvrage intitulé « Le gorille invisible, quand nos intuitions nous jouent des tours », qui sont l'ouvrage publié par les éditions Le Pommier en 2015, dont vous trouverez les références sur le site de Sciences Publiques, avec celle d'ouvrage écrit par Éric Bonvin sur l'hypnose en particulier. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an et nous faire part de vos commentaires et réactions. La semaine prochaine, vendredi 1er avril, vous retrouverez l'émission mensuelle de Sciences Publiques réalisée en partenariat avec Science et Vie. Nous reviendrons sur le sujet passionnant de l'intestin et des dernières découvertes concernant le microbiote, cet univers de microbes avec lequel nous vivons en symbiose sans en avoir conscience, mais dont l'activité influence aussi bien notre morale que notre santé. Nous verrons comment la médecine peut tirer profit de ces recherches récentes sur ce que l'on nomme souvent notre deuxième cerveau, avec nos invités parmi lesquels Guillaume Font et Patrice Debré. Sciences Publiques d'Annie Journeau, Emmanuel Morse d'Incan, avec Isabelle Barthes pour Radio Suisse Romande à Lausanne, Marie Dalquier, Michel Albergonti.
France Culture présente In Jackson Heights de Frédéric Weissmann.
TLC likes to use the word neighborhood.
Jackson Heights est l'un des quartiers les plus cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde entier et on y parle 167 langues.
Nosotros hemos venido a dejar aquí nuestras vidas, nuestro sudor.
Weissmann s'invite dans le quotidien du quartier et met en lumière l'antagonisme qui se joue au sein de ces communautés, prise entre la volonté de préserver les traditions et la nécessité de s'adapter au mode de vie et aux valeurs des États-Unis. In Jackson Heights, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 17h20, l'heure de retrouver Hervé Gardette pour le 5 à 7. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Michel Albert-Gonty, à vendredi prochain.